Ba-da-da-dum-dum. Ba-da-da-dum-dum-dum. Ba-da-da-dum-dum.
Allons enfants de toutes les patries, le jour de croire est enfin arrivé. Si alentour nous semions l'harmonie, l'étendard sanglant serait lavé. Entendez-vous dans les campagnes s'unir nos précoces petits gars? Ils viennent jusque dans vos bras, vous serrez fort et soulevez des montagnes.
Ba-da-da-dum-dum. 13h30 sur Bac FM 106.1, merci d'être resté avec nous après le C dans les parages. Chers auditeurs, toute la semaine, je suis avec vous à partir de 13h30 pour parler de la semaine des droits de l'enfant, thème ô combien important ici. Tout à l'heure, à 18h30, aura lieu une conférence sur les émotions de l'enfant au théâtre municipal de Nevers à l'initiative de l'association Trois Petites Graines. Et justement, ça tombe bien puisque j'ai à mon micro Valérie Didier-Laurent et Laetitia Boivin, conférencières toutes les deux et membres fondatrices de l'association Trois Petites Graines. Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous sur Bac FM.
Bonjour.
Ma première question, elle est un peu globale en fait. Est-ce que vous pouvez présenter l'association Trois Petites Graines?
Alors oui, moi donc je suis pour l'instant secrétaire aujourd'hui de l'association Trois Petites Graines. L'association est née en 2019 et en fait elle propose des actions à destination des familles et des professionnels petite enfance, en fait, de l'agglomération de Nevers, de toute la Nièvre, finalement, et même un petit peu les départements limitrophes. Des actions, en fait, qui permettent, dans des directions différentes, en fait, on s'appelle Trois Petites Graines parce que il y a les trois P, la périnatalité, la parentalité et la pédagogie. Et au travers de ces trois P, eh bien, on va proposer des actions donc autour de pauses comme la pause allaitement ou la pause portage ou pause autour des émotions et également des ateliers, ateliers bébé signe, ateliers motricité, donc pour les parents et leurs enfants, leurs tout-petits qui participent. Et ce sont des moments de partage entre parents autour d'un thème, en fait, qui permettent aux familles de se sentir moins isolées.
Oui, alors moi, j'ai envie de dire que c'est Aurane, du coup, notre présidente, qui est à l'initiative au départ. C'est elle qui a commencé à en parler autour d'elle, à rassembler, puisque vous êtes voisine, donc petit à petit, à donner un certain nombre de noms comme ça. Et on s'est rencontrés, on était plusieurs jeunes mamans à ce moment-là, et on s'est dit qu'on avait besoin d'avoir des temps, vraiment des espaces pour se rencontrer, pour échanger. Et puis vu qu'on avait on était plusieurs à avoir une casquette de professionnel, bah envie de creuser un petit peu plus certaines thématiques, notamment l'accompagnement respectueux.
En parlant de temps, on peut se rencontrer tout à l'heure, aura lieu à 18h30, si je ne dis pas de bêtises, la conférence. Alors au nom, j'ai cru comprendre qu'il était un peu long, est-ce que vous pouvez le rappeler?
Alors, le nom de la conférence, le thème, c'est colère, crise et larmes, SOS, émotion de nos enfants.
Long mais complet.
Et je tiens à le préciser, on n'a pas mis caprice et c'est volontaire.
Et non pas fait. Caprice, et ben, justement, c'était ma question, je vais vous demander un peu de présenter cette conférence, qu'est-ce qui va s'y passer, voilà, pour donner un peu envie aux gens de venir la voir.
Très bien, alors cette conférence, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par les émotions de façon générale. Et donc bien évidemment, les parents, les professionnels petite enfance, professionnels de l'enfance, qui accompagnent des enfants au quotidien et qui se posent des questions par rapport à comment peut-on réagir quand on est face à ces enfants qui justement vont faire des colères, qui vont vivre des colères, des crises et qu'on ne peut arrêter. C'est toujours difficile de se positionner et donc ben voilà, on partira du principe que déjà bien comprendre ce que c'est qu'une émotion, à quoi ça sert, parce que c'est du coup très très utile et c'est déjà un premier point. On se rend bien compte qu'on est on n'est pas armé, en fait, nous, en tant qu'adultes, pour bien comprendre ça, puisque dans notre enfance, en fait, on ne nous a pas vraiment appris à gérer nos émotions, à comprendre nos émotions. Donc voilà, comprendre déjà ce que c'est qu'une émotion, à quoi ça sert.
Alors moi, je pense que c'était vraiment un sujet qui est hyper intéressant et hyper riche, parce que justement, finalement, c'est quelque chose, on a tous et toutes été confrontés, que ce soit en tant que parents et en tant que professionnels, à des crises, à des moments où ça déborde, ça explose dans tous les sens. Et même en tant que témoin, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va parler à tout le monde, la crise de l'enfant qui est au supermarché. On a tendance à dire très souvent, à pointer, de dire il est mal élevé, c'est de la faute de l'enfant, c'est à cause de lui, alors qu'en fait pas du tout. Souvent c'est juste une mécompréhension, une méconnaissance du fonctionnement de l'enfant. Et donc là on va vraiment donner des outils qui sont, on va dire, très vastes et généralistes, mais qui sont néanmoins très efficaces pour pouvoir accompagner un petit peu de manière respectueuse, tout en essayant d'inviter l'enfant à mieux... Alors moi, j'aime pas trop le terme gérer, j'aime bien le terme accueillir, parce que bon, les émotions, elles arrivent, c'est vraiment des vagues. Et en tant qu'adulte, en fait, on demande à des enfants de faire quelque chose, eux, que nous-mêmes, on a du mal à faire. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu ça, et puis en apportant aussi de la légèreté et de la déculpabilisation, parce qu'en réalité, il n'y a personne qui est parfait, et c'est pas le but.
Les mots sont importants, effectivement, et vous disiez à l'instant qu'il fallait éviter le mot caprice. J'aimerais vous demander de développer un peu là-dessus.
Alors moi j'ai une petite chose que j'aime bien par exemple partager, c'est que quand je me sens pas très bien, ça arrive à tout le monde j'imagine, hein, un moment où on n'est pas hyper à l'aise, on sait pas pourquoi, on peut avoir un petit rhume, un petit contrariété, quelque chose, on va vers quelqu'un en qui on a confiance, par exemple son compagnon, on dit bah, j'aimerais bien un câlin, et en fait si à ce moment-là il nous dit oh là là, et c'est bon, ça va, je t'en ai déjà fait un hier... On ne vit pas super bien, on a tendance à dire mais elle fait des caprices tout le temps, elle a envie de câlins, je ne comprends pas. Et en fait, juste c'est un besoin, voilà. Il y a des besoins qui sont très faciles à combler quand l'enfant est tout petit. Bon, il pleure, soit il a faim, soit il a envie de dormir, un truc comme ça. Et puis ben, petit à petit, plus on grandit, plus les besoins se complexifient et moins on arrive forcément à les décrypter. Et puis vient des besoins comme le besoin de soutien, par exemple, que j'ai exprimé. Et quand c'est un enfant qui se met à pleurer, on a tendance à dire hey, « ça va, hey, c'est bon ». Et en tant qu'adulte, nous, on ne vivrait pas super bien d'être accueillis comme ça.
Et je veux bien ajouter par rapport au caprice qu'on dit aussi que finalement le caprice c'est quelque chose sur lequel l'adulte en fait ne comprend pas finalement ce qui se passe pour l'enfant et du coup il va dire que c'est un caprice. Et on sait maintenant aussi grâce aux neurosciences que le cerveau de l'enfant n'est pas du tout mature et qu'il y a beaucoup de frustration qu'il ne saura absolument pas gérer et il aura une façon d'exprimer son mécontentement. Oui, il peut partir un peu dans tous les sens, malgré tout, c'est parce qu'il ne sait pas comment faire autrement. Et ce n'est pas pour tester l'adulte. Bien souvent, on a cette...
Il teste les limites, on dit parfois.
On le dit souvent. Il fait surtout comme il peut et pas forcément comme il voudrait. Et parfois, l'adulte jette un regard un peu suspicieux sur l'enfant et sur ses colères qui désarçonnent complètement l'adulte, en fait. Hein. Voilà.
Est-ce qu'il y a une méconnaissance, en tout cas j'entends de votre discours, de la société française un peu sur ces thèmes-là, de l'éducation, de comprendre les émotions, des enfants ?
Complètement. on n'est vraiment pas ce qu'on appelle un pays kids friendly. Il y a énormément de pays où on peut voyager notamment avec les enfants, où les gens vont être très prévenants, tout ça. En général, en France, les enfants dérangent. On voit que de plus en plus, il va y avoir des campings interdits aux enfants, des cinémas,
des mariages.
Vraiment beaucoup, de plus en plus de lieux comme ça. Si on remplaçait enfants par personnes racisées, par exemple, ça ferait beaucoup plus grincer des dents. Donc voilà, je pense que pour recentrer un petit peu sur la discussion, le terme de caprice, la plupart du temps, correspond au fait qu'on ne sait pas quel est le besoin derrière, c'est une chose, mais aussi souvent avec les outils qu'on va donner, on va se rendre compte que si on a été vigilant en amont, on peut voir qu'il y a des éléments autour dans l'environnement par exemple qui n'ont pas permis à l'enfant d'être suffisamment serein et petit à petit on va pouvoir décrypter et faire de la prévention, en fait prévenir, parce que souvent un enfant qui fait la crise, par exemple je reprends l'exemple du magasin, l'enfant qui a attendu des fois une heure et demie dans le magasin, c'est une surstimulation énorme. Oui, forcément, avec les chewing-gums en face de lui et les bubble-gums de toutes les couleurs, il a envie, c'est normal en fait, c'est naturel.
C'est pensé pour, d'ailleurs.
C'est fait pour, je pense, tout à fait. Et puis, l'enfant, en fait, il n'est pas mauvais d'avoir envie. C'est normal en fait, c'est naturel pour lui, c'est vraiment, voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte.
Ce que vous me dites, ça me fait penser un peu au film Pixar Vice Versa, où on voit les enfants avec des émotions dans la tête. C'est très graphique, mais peut-être moins précis que ce que vous faites, mais en tout cas, ça fait le lien. Oui. Pour revenir sur la conférence, du coup, comment ça va se passer en tant que tel ? Est-ce qu'il y aura un moment de questions-réponses ? Est-ce que ça va être un exposé, j'ai envie de dire ? Comment ça va se dérouler ?
Alors, on va faire, on a un petit diaporama où on défile des petites slides comme ça, où on échange. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça soit quand même le plus ludique possible et on a prévu un petit temps d'échange.
Oui, oui, effectivement. Enfin, pour le coup, on aimerait beaucoup avoir l'avis des personnes présentes par rapport à la façon dont elles ont eu à gérer leurs émotions quand elles étaient plus jeunes. Enfin, finalement, quelles ont été les phrases, les remarques qu'elles ont eues directement de la part des adultes qui les ont entourées. Est-ce qu'elles ont eu l'impression d'être écoutées dans les émotions qu'elles vivaient ou au contraire, est-ce qu'elles ont eu l'impression qu'il fallait qu'elles répriment ce qu'elles ressentaient ? Parce que, bien évidemment, qu'en fonction de la façon dont on l'a vécu petit, eh bien, quand on est plus grand, quand on est adulte, ça va avoir un grand rôle. On va sans doute ne pas... On ne comprend pas vraiment ce qu'on vit, en fait. On ne comprend pas vraiment nos émotions tant qu'on ne nous l'a pas expliqué quand on était petit. Et si on nous a dit plutôt, ben, écoute, c'est pas grave, arrête de chouiner et passe à autre chose... Et bien là, effectivement, on ne nous a pas donné l'envie d'être à l'écoute. Et au contraire, on nous a dit plutôt, ben, c'est pas grave, ton émotion, tu n'as pas besoin de l'écouter. Et donc, et ben, c'est difficile, après, d'écouter les émotions de nos propres enfants, quand nous, on n'a pas eu...
On ne les comprend pas.
Voilà, exactement.
Et je rajoute qu'on ne jugera pas les personnes à qui il arrive de dire « arrête de chouiner ».
On est d'accord.
Vous ne serez pas jugé, chers auditeurs, si jamais vous avez prononcé cette phrase un jour dans votre vie.
À la fin, on a un petit temps d'échange aussi de manière informelle, où il va y avoir des livres du café Les Audacieuses.
Les Audacieuses, librairie féministe à Nevers. Qu'on a d'ailleurs reçu à Bac FM, petit instant auto-promo, parce que ça fait jamais
et
de mal.
Et j'espère aussi enfantiste, du coup.
Et enfantiste. Est-ce que vous pouvez définir enfantiste? Parce que je suis pas sûr que le terme soit aussi retenu dans la société que féministe, par exemple.
Je pense que les personnes qui ont compris ce que ça voulait dire, le féminisme, peuvent comprendre qu'avec l'enfance et l'enfantisme, c'est le fait de soutenir. Voilà, tout à fait.
C'est un terme qui est un peu plus rare. Alors, on parle beaucoup d'idées depuis tout à l'heure un peu préconçues, c'est-à-dire voilà, les caprices, ce genre de choses. Comment on fait pour les déconstruire, ces idées? Le terme déconstruction, il est rare, mais il est important.
Tout à fait. C'est vraiment dans la compréhension. Enfin, comment est-ce qu'on comprend l'enfant dans ce qu'il vit? Et pour le coup, c'est aussi se comprendre pour soi. Tant qu'on n'a pas expérimenté finalement et compris ce que c'était qu'une émotion, à quoi ça servait et comment nous-mêmes on pouvait l'exprimer, eh bien, on ne va pas pouvoir accompagner l'enfant parce qu'on ne va pas comprendre ce qu'il vit. Donc c'est vraiment, moi, ce mot compréhension, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important.
J'avoue, j'ai perdu la question.
Eh bien, ma question était sur le fait de comment déconstruire ces clichés qu'on a.
Moi, j'ai envie de dire que ça prend du temps. Ça prend du temps que pour pas mal de personnes, en fait, la déconstruction, elle passe vraiment par le vécu. En fait, les personnes qui ont souffert de ne pas avoir été compris peuvent à un moment vouloir proposer autre chose. Et j'imagine que c'est quand même souvent comme ça que ça se passe.
Alors, l'idée de cette interview n'est pas de spoiler la conférence, loin de là. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de vous demander quelques outils concrets pour peut-être donner des clés à ces parents qui nous écoutent.
Si on part déjà pour les tout-petits, moi, comme je pouvais le dire, le fait que les enfants, au départ, ont des besoins de plus en plus complexes au fil des mois, l'outil bébé signe est quelque chose d'hyper précieux. Donc, pour situer un petit peu, c'est des signes qu'on va utiliser issus de la LSF. Alors, je le précise, ce n'est pas de la LSF, parce que là, on pioche vraiment juste certains mots qu'on va signer en même temps qu'on les oralise. Et les enfants peuvent s'en saisir beaucoup plus vite que les mots. Ça va nous permettre de savoir si, en fait, là, notre enfant, il est plutôt fatigué, donc c'est des pleurs de fatigue, ou si c'est des pleurs de colère. Et pour revenir sur le côté féministe, en fait, il y a une étude, il y a plusieurs études, mais une bien connue, où on montre des photos de bébés qui pleurent. Et si on leur dit c'est un garçon, on dit bah il pleure parce qu'il est en colère. Et si c'est une fille qui pleure, on va dire elle pleure parce qu'elle est triste. En fait, il y a plein de fois où les bébés pleurent, on ne sait pas, on décrypte, on propose. Et donc là, quand l'enfant, à partir de 8-10 mois, peut commencer à signer, ça nous permet de d'être vraiment au clair sur ses besoins. Et en fait, nous sommes des êtres de relation, donc c'est hyper important d'avoir vraiment ces temps d'échange, de communication et de pouvoir le faire de différentes manières.
Donc en fait, de ce que j'en comprends, dans le fond, c'est lié aux grandes luttes sociales, le féminisme, la montée malheureuse du masculinisme, tout ça, ça impacte
oui,
l'éducation.
Je pense, complètement, oui.
On parle un peu des parents, est-ce qu'il y a aussi un travail à faire au niveau éducatif? Je pense aux écoles, je pense aux collèges, je pense au lycée.
Alors en fait, bien évidemment, et ce qu'on dit, c'est que plus on apprend aux enfants à mieux comprendre ce qui se passe pour eux au niveau de leurs émotions, donc plus on va accueillir leurs émotions et les aider à se familiariser avec, et plus ça sera facile pour eux de vivre avec en grandissant. Quand on sait effectivement l'importance des émotions au niveau relationnel, en fait c'est presque un combat sociétal, hein, ces histoires d'émotions. Donc oui, ça se passe au niveau de la famille, mais c'est très important de pouvoir aussi aborder ça dès la crèche, finalement. Il y a beaucoup, beaucoup maintenant de livres pour aborder les émotions vis-à-vis des jeunes enfants. De même à l'école maternelle, et de donner des outils en fait aux enfants pour qu'ils puissent s'exprimer par rapport à ce qu'ils ressentent, leur donner un espace et une écoute finalement dans tous les moments de la vie, et voilà, que ce soit de l'école maternelle, l'école primaire, même en grandissant au lycée.
Il manque cet espace aujourd'hui en France?
Oui, certainement. Certainement. En même temps, je pense que c'est en train effectivement de se développer. En tout cas, on se rend bien compte que, alors par exemple, le livre Le monstre des émotions, on se rend bien compte que dans de très 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 nombreuses écoles maternelles, il est présent, et que beaucoup d'institutrices s'en servent pour en parler aux enfants. Donc voilà, j'ai bon espoir que ça se généralise. Il faudrait que ça se généralise, que ce soit vraiment une priorité, que ce soit aussi important que d'apprendre à lire ou à compter. Enfin, même c'est presque encore plus important. Voilà, c'est...
Je pense que pendant longtemps, il y a eu une confusion entre tout est permis et il est permis de tout ressentir. C'est ça, en fait, la nuance, elle est quand même importante. Et je pense qu'il y a eu pas mal de peur aussi, que de se dire, l'enfant, c'est un petit monstre, si on le laisse faire, il va nous manger tout entier, quoi. On lui donne un petit morceau, puis en fait, on se fait happer. Et finalement, on se rend compte qu'avec toutes les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui, alors je sais que les sciences évoluent, mais finalement, c'est pas prouvé, quoi.
Et en fait, le message qu'on souhaite faire passer, et il y a Monsieur Guinot qui est un psychologue américain, c'est lui qui a dit des premiers psychologues, que toutes les émotions sont légitimes. En revanche, tous les comportements ne sont pas acceptables. Et finalement, c'est ça qu'il faut faire passer comme message aux enfants. Ils ont le droit, effectivement, d'être en colère, d'être triste, etc. Simplement, quand on est en colère, on va pas crier, insulter, jeter. Il faut qu'ils apprennent à exprimer leur colère autrement. Mais la colère est légitime
en
tant que telle, puisqu'il y a un besoin derrière qui n'est pas satisfait. Donc forcément, elle est légitime.
Depuis le début de cette émission, on utilise beaucoup le mot « enfant », ce mot un peu spécial. Juridiquement, en France, c'est de 0 à 18 ans. Dans d'autres pays, c'est plus, c'est jusqu'à 21 ans. Je suis pas sûr qu'à 19 ou 20 ans, on soit tout à fait un adulte. On n'est plus tout à fait un enfant. Ma question, elle est simple. C'est quoi être un enfant, en fait? Question un peu large.
Alors, il faut savoir que, par exemple, la construction du cerveau, comme tu le disais, on n'est plus tout à fait enfant, mais on l'est quand même pas mal, parce que c'est jusqu'à 25 ans. Donc déjà...
J'en ai 23, je suis encore un enfant, c'est
et
génial.
Voilà,
c'est...
encore en construction. C'est ça. On continue quand même d'apprendre toute notre vie.
Hein. Ça, t'es pas terminé.
Ouais, mince, alors dans 2 ans... cette conférence, justement, elle s'adresse aux gens qui voudraient avoir des clés pour les enfants de 0 à 25 ans, si je peux dire.
Oui. Parce que, pour le coup, on est bien d'accord que la maturation du cerveau, elle se fait, donc, comme on a dit, entre 0 et 25 ans, et que la partie émotionnelle, jusqu'à 7-8 ans, et ensuite, donc, c'est un peu plus paisible, on va dire, le temps de l'enfance, mais à l'adolescence, il y a à nouveau tout un chantier au niveau du cerveau qui fait que les émotions vont faire le yo-yo, et que c'est compliqué encore à ce moment-là. Donc, ça s'adresse vraiment, je dirais, à toute personne intéressée par les émotions. Et
ouais, moi j'ai envie de dire, en fait, toute personne qui, dans sa vie, à qui il arrive de sentir qu'il est en crise, qui fait des colères ou qui a des larmes, donc à peu près tout le monde, non?
C'est ça, c'est ça.
Un des grands mal du siècle pour les enfants, c'est la santé mentale. C'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup de gens. On a beaucoup de chiffres sur les étudiants, ça concerne évidemment aussi les enfants plus jeunes qui sont en première ligne. Comment on fait, en tant que parent, du coup, pour gérer des enfants qui ont des problèmes de santé mentale? C'est de plus en plus fréquent. Est-ce que cette conférence, elle est aussi là pour apprendre ça, puisque les émotions sont liées tout de même à la santé mentale?
Oui, alors c'est un sujet vraiment complexe, ça va être difficile de répondre en une phrase, mais pour le coup, oui, je pense qu'un enfant qui est accueilli comme il est, à qui on apprend qu'il est légitime de ressentir toute une palette d'émotions, il est légitime de sentir pas bien, parce que souvent c'est ça en fait, c'est vraiment, alors là c'est un petit spoil quand même de la conférence, quand l'émotion elle arrive, c'est un message, et finalement si on veut pas l'entendre le message, ben qu'est-ce qu'il fait? Ben clac clac clac, il tape de plus en plus fort. Et finalement, l'émotion de la peur ou du ressentiment, le fait de ne pas sentir bien, l'enfant qui vit par exemple une situation de harcèlement, il va être tellement mal, et s'il n'a pas de personne à qui l'en parler autour, ou quand il l'essaye, on lui dit « Ah, ça va, arrête de faire ton petit, là, c'est pas la peine, oh, c'est pas si important », finalement, si on décrédibilise ce qu'il dit comme ça, il va arrêter de le dire. Mais ça va continuer de le ronger de l'intérieur. Donc je pense qu'en termes de santé mentale, bien sûr, les émotions, c'est vraiment fondamental d'apprendre à les percevoir, à voir comment elles font dans notre corps également, et puis réussir à les accueillir, et puis entendre le message qui est derrière, et respecter ses besoins, quoi. On fait le cycle comme ça.
Le harcèlement, la santé mentale, c'est pas un problème qui est nouveau, c'est des choses qu'on a identifiées depuis très longtemps.
Ouais, ça fait un sacré up, hein, avec notamment les réseaux sociaux, les écrans.
Tout à fait. Mais même les réseaux sociaux, en fait, c'est pas tant nouveau que ça à l'échelle, à toute échelle confondue. Ça a une grosse quinzaine d'années depuis que c'est très populaire, mais tout de même, on organise des semaines du droit de l'enfant, on fait des conférences sur ce sujet-là. Pour autant, moi, pour préparer cette émission, j'ai eu des chiffres très compliqués au niveau national sur la santé mentale des jeunes, sur la situation du harcèlement, et en fait, ça ne s'améliore pas. Ma question, en fait, c'est la même que lors de l'émission de présentation, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne fait pas un peu tout semblant sur ce sujet-là? Est-ce qu'on organise des conférences? Est-ce que ça a vraiment un effet, tout ça, ces semaines, ces conférences, ces expos?
Est-ce qu'on met vraiment les moyens qu'il faut?
Est-ce qu'on met vraiment les moyens qu'il faut? C'était ma question, tout à fait.
Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est quand même des prises de conscience. À nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu, effectivement, il y a plein d'éléments de connaissances qui font que, notamment avec les neurosciences, hein, qui sont nées à la fin du XXe siècle, ce qui fait que c'est quand même relativement récent, et toutes ces connaissances, le grand public n'en a pas du tout conscience. Donc là, en fait, ces conférences, c'est aussi pour ouvrir des pistes de réflexion, et permettre de se poser effectivement les bonnes questions pour essayer de comprendre pourquoi ça va si mal parfois. Pourquoi c'est si compliqué, effectivement, ces histoires de harcèlement. Et donc, le fait qu'elles existent, oui, bien sûr que ça aide. Parfois, il y a des personnes, hein, que je revois 4-5 ans après, qui m'ont entendu en conférence en disant « quand vous avez dit ça, voilà, là, ça m'a parlé. » Du coup, j'ai été plus attentive avec mon enfant par rapport à ça. Et donc, à nouveau, on n'est pas là pour révolutionner, mais on plante des petites graines, voilà, d'où notre association Trois Petites Graines aussi.
Non, clairement, la conférence, c'est une goutte d'eau. Après, comme tu le disais, Valérie, ça permet parfois de prendre conscience de certaines choses ou d'aller un petit peu plus loin. Ça va être des petites touches avec des petites infos comme ça. Il y en a qui vont parler, il y en a qui ne vont pas parler. Il en faut pour tout le monde. Après, on invite les structures à faire appel à nous en tant que formatrices pour aller plus loin.
Les gens auront du concret, ça c'est une certitude.
Tout à fait.
C'était ma question d'après, figurez-vous. Comment on mesure l'impact d'une soirée comme celle-ci? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, comme vous venez de le préciser? Est-ce qu'il faut passer un petit questionnaire? Je ne sais pas comment. Est-ce que vous mesurez l'impact?
On avait eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux l'année dernière?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis finalement, les personnes qui sont intéressées par ce genre de conférences, on les retrouve aussi. Alors moi, je propose des ateliers, j'anime des ateliers de parents. Et en fait, voilà, on retrouve ces parents régulièrement, en fait. Donc, on a ces retours, et voilà. Et parfois, c'est suite à une conférence, suite à certaines phrases entendues. Donc oui, on sait que... Et bien souvent, les retours sont très positifs, en fait. Bien souvent, le mot qui ressort, c'est passionnant. Et passionnant, ça veut dire que les personnes ont l'impression de comprendre, de mieux comprendre. Voilà, donc c'est vraiment...
Moi, pour être tout à fait honnête, je sais qu'il va y avoir déjà une bonne partie des personnes qui vont venir nous écouter, qui sont déjà convaincues. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse gagner un petit peu en visibilité auprès d'un public qui
ne l'est pas. Tout à fait. Vous avez peur de prêcher des convertis? Un petit peu?
Oh, j'ai pas forcément peur de ça, hein. C'est toujours agréable de parler entre nous, mais c'est sympa aussi de pouvoir étendre le message à plus de personnes.
Est-ce que vous avez un message pour les parents et les éducateurs qui se sentent parfois un petit peu dépassés? Moi, je pense beaucoup aux couples. On sait que la charge mentale revient beaucoup aux femmes, notamment pour les tâches ménagères, pour l'éducation des enfants, justement, on en parle beaucoup.
Et c'est elles qui seront surtout présentes.
Et c'est elles qui seront surtout présentes là-dessus.
Mais quand même, un bon nombre de papas garderont les enfants pour qu'elles puissent être présentes. Il y a quand même une chose qui évolue.
Je l'espère bien. comment on fait pour les culpabiliser? C'est, je pense aux mamans solo, par exemple, ou aux mamans qui font beaucoup de choses à la maison.
Alors surtout, c'est ça qui est important, et je pense que c'est aussi un des messages, c'est que faut rester bienveillant avec soi-même parce que oui, la charge mentale, la fatigue, ça fait exacerber toutes les émotions. Et donc, on a plus tendance forcément à se mettre à crier facilement et rapidement. Et l'histoire de il n'existe pas de parents parfaits, hein, ça c'est vraiment très très important. Et les parents, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits parce que les enfants sont en apprentissage de la vie en grandissant, ils apprennent plein de choses. Les parents aussi, quand ils ont des enfants, ils apprennent, ils sont aussi en apprentissage. Et pour le coup, quand un parent se met fortement à crier, l'enfant se rend compte que le parent peut faire aussi des erreurs. Et puis simplement, c'est parfois quand on a trop crié et qu'on regrette, on peut toujours aller retourner voir son enfant en disant écoute, là, je suis désolée, tout à l'heure, j'ai pas su gérer, j'aurais préféré gérer autrement, j'ai pas réussi. Et là, c'est un formidable exemple, en fait, qu'il donne à son enfant parce qu'il dit ok, j'ai pas fait comme j'aurais voulu faire. Et en fait, mais je m'excuse. Et ça donne l'exemple que l'enfant, lui aussi, il a le droit de se tromper et il a le droit de s'excuser aussi après.
Tout à fait. Et je pense que si moi j'ai un message à faire passer, c'est vraiment rappeler, notamment aux mamans, parce que c'est quand même souvent elles qui sont le plus avec les enfants et le plus en difficulté et à se retrouver à faire un peu cocotte-minute et après regretter, culpabiliser, être vraiment dans un cycle qui n'est pas hyper cool. C'est de se dire que finalement, en faire moins, c'est un acte qui est hyper engagé, qui est hyper difficile. Mais en faire moins, parce que quand on avait quelques enfants, il y a encore une ou deux générations, il n'y avait pas toute cette stimulation, ces activités extrascolaires. Là, on croule sous les injonctions tout le temps. Et finalement, quand on fait moins, on se rend compte que c'est OK. Ça marche, c'est OK. Et en plus de ça, on va montrer par l'imitation que c'est bon d'écouter vraiment quels sont nos besoins, que c'est bon de vraiment...
C'est-à-dire faire moins, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est pas grave si t'avais prévu de faire un petit truc fait maison et que finalement l'ambiance est pas là et que toi t'es fatigué, t'as juste envie d'aller te poser un petit peu, fais-le. C'est pas grave. Il y a plein de petits trucs comme ça où on se met souvent beaucoup de pression.
Il y a le ménage de la maison aussi, où on a envie de faire tout de...
Il y a des mamans qui passent l'aspirateur, la serpillière tous les jours. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Parce qu'elles ont peur qu'elles donnent l'image de quelqu'un qui n'est pas assez organisé, qui n'est pas assez je ne sais quoi...
C'est très important que les parents arrivent à sauter de la pression. Et cette pression sociétale, c'est évident qu'elle est bien présente. Les réseaux sociaux n'aident absolument pas. Et ça, c'est vraiment un message important pour que justement les parents puissent déculpabiliser. On sait que les deux émotions en fait, qui sont les plus fortes quand on est parent, tu me diras Laetitia ce que tu en penses, mais je pense que l'inquiétude, justement de pas faire assez et puis la culpabilité aussi, et donc c'est vraiment ces deux émotions là qui génèrent beaucoup de stress pour les parents.
Vous parlez beaucoup des réseaux sociaux depuis le début de cette émission, j'ai l'impression que vous portez un regard assez critique et ça m'intéresse en fait, c'est quoi votre regard sur les réseaux sociaux par rapport aux émotions de l'enfant?
Je ne sais pas si on peut vraiment dire critique, en tout cas c'est un outil qui peut être merveilleux dans bien des cas, il a permis à beaucoup de parents de ne pas se sentir isolés justement, de pouvoir échanger à chaque heure du jour et de la nuit, parce qu'une maman qui est en train de bercer son bébé depuis 2h, 3h en pleine nuit, elle est contente de pouvoir mettre un petit message et qu'il y en a une qui te répond t'inquiète moi aussi, allez vas-y, ça va le faire.
Avec un petit like.
Mais à côté de ça, ça reste, de toute façon c'est une image qui est galvaudée, il y a beaucoup de choses, on voit qu'une partie de la réalité, et quand on est fatigué, on est particulièrement, on va dire, je sais pas si vraiment le mot c'est fragile, mais en tout cas
sensible,
particulièrement sensible, et c'est beaucoup plus facile de se prendre pour argent comptant l'image qu'on va voir, et un peu c'est un peu délicat
parce qu'effectivement on n'arrive pas à prendre suffisamment de recul parfois, c'est ça, surtout quand on est fatigué, on prend moins de recul par rapport à ce qu'on voit.
Et puis on sait que le cerveau, il a beau savoir que c'est pas vraiment que c'est faux ou pas, mais en tout cas on va avoir tout un tas d'images passées avec des trucs qui sont rêvés, et de notre côté on a l'impression que c'est tout fade, c'est tout dans les cris, c'est tout, on comprend pas en fait, ça, c'est quoi le décalage, on se dit forcément que c'est nous qui faisons quelque chose qui va pas, quoi.
J'ai l'impression que tout ça, ça se crée dans une vision du capitalisme un petit peu devenu fou, où justement ça impose un pouvoir d'achat un peu particulier, une charge mentale forte pour les femmes due au patriarcat notamment. J'ai l'impression que tout ça lié, j'espère que je dis pas de bêtises, je parle sous votre surveillance.
Non, ça m'a l'air juste.
Je pense qu'il y a vraiment en effet le temps qui prend une richesse et une saveur particulière. Hein, quand on est parents, jeunes parents, souvent on manque de temps. C'est pour ça qu'en course, on a envie que ça aille vite et qu'en termes de frustration, ça peut être compliqué. Et que ça peut, quand on prend le temps avec les enfants, tout est beaucoup plus facile. Mais est-ce qu'on l'a des fois?
Est-ce qu'on a le temps?
Comment on privilégie quel temps, pour qui, quand? C'est pas si facile.
Je voulais terminer cette émission sur les infos un peu pratiques de la conférence. Alors, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que ça l'est pas? Comment on fait pour venir? Comment on fait pour ne pas venir? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est gratuit. C'est on peut s'inscrire. On a des petits QR codes qui sont passés, notamment sur les réseaux. ça se passe à partir de 18h30 au Petit Théâtre de Nevers.
Donc ça sera tout à l'heure, voilà, 18h30.
Tout à fait, effectivement. Et si jamais les personnes n'ont pas réussi à s'inscrire avant, mais surtout qu'elles viennent, qu'elles n'hésitent pas.
S'il y a de la lumière, passez devant, vous pouvez rentrer.
Ouais, donc on peut venir même spécialement sans inscription, on peut tenter notre chance si on a raté le coche.
Exactement, il n'y a aucun souci.
Est-ce qu'on peut retrouver peut-être des infos de votre association sur les réseaux? On en parlait, mais sur Internet?
Tout à fait. Alors effectivement, l'association a un site Internet. Et puis, on a une page Facebook et une page Instagram, 3 petites graines.
Tout simplement.
Tout simplement.
Merci Laetitia Boivin, merci Valérie Didier-Laurent d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes membre de l'association des 3 petites graines. Je rappelle également que cette conférence aura lieu à 18h30 tout à l'heure au Théâtre Municipal de Nevers. De mon côté, je vous donne rendez-vous dès demain, 13h, pour les émissions que vous connaissez. Hein. D'abord, ce sera votre journal à 13h. Ensuite, il y aura le C'est dans les parages, l'émission où je parle d'actualité locale avec un acteur nivernais. Et enfin, 13h30, émission spéciale droit de l'enfant, ça c'est toute la semaine, jusqu'à vendredi. Et en attendant, restez à l'écoute de Bac FM, la radio qui va haut et fort.